L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h, avec encore un autre de nos partenaires fidèles et fort appréciés, grâce auxquels l'agriculture et l'élevage paysan n'ont presque plus de secrets pour nous. Car le CIVAM, Réseau Paysan du Finistère, c'est une association qui rassemble celles et ceux qui produisent, mais à taille humaine, avec un souci à la fois de qualité, de respect de la terre et des milieux naturels environnants, des gens qui savent trouver des compromis, qui refusent de faire de l'agriculture une industrie. Le CIVAM du Finistère propose donc des formations, des stages, des accompagnements personnalisés, aussi des échanges de pratiques également. Et ce n'est pas tout, comme nous allons le découvrir, le CIVAM joue aussi les observatoires des pratiques agricoles, si on veut. Autour de ce plateau radio, aujourd'hui, il y a Sophie Paté, la coordinatrice du CIVAM du Finistère, et Paul Leyot, qui est stagiaire ingénieur agronome et qui a justement mené l'étude dont on va parler. Bonjour à vous deux.
Bonjour Véronique.
Bonjour.
Sophie, on va commencer avec vous. Le CIVAM, donc, mène des études. Est-ce que c'était déjà le cas avant? Est-ce que c'est une nouveauté?
Oui, alors le CIVAM, selon certaines thématiques de projet, en fait, a porté différentes études. Dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, qui est les fermes qui utilisent les milieux semi-naturels pour nourrir leurs troupeaux, nous avons conduit un premier travail de recensement des espèces végétales qui posent des problèmes, en fait, sur ces fermes qui... font du pâturage, comme on pourrait citer la fougère, la ronce, la jonc. Et c'est vrai que c'est des plantes qui sont aussi indicatrices de milieux qui sont délaissés, qui ont été abandonnés par l'agriculture conventionnelle et industrielle, et pour lesquelles, quand les agriculteurs reprennent ces terrains, en fait, se posent beaucoup de questions, quoi.
D'accord. Et donc ça a été étudié déjà, avant l'étude dont on va parler.
Tout à fait, ouais. Ça, c'était un petit aspect de ce travail de défrichage qu'on fait sur les milieux semi-naturels.
Et vous n'aviez pas mené d'autres études comme ça, de cette ampleur avant, sur d'autres sujets?
L'étude de Paul, non, c'est assez nouveau. On avait fait d'autres études dans d'autres milieux, comme vous avez pu entendre au mois de juin, sur les élevages qui intègrent des animaux recycleurs, en l'étude qu'avait fait Laura Lagache au CIVAM. On avait aussi travaillé sur le porc blanc de l'Ouest aussi, des études comment on pouvait tendre à pouvoir avoir un élevage économe et autonome en porc blanc de l'Ouest. Donc oui, on a différents sujets sur lesquels...
Bon, après, sinon, il y a le CIVAM qui est un réseau national. J'imagine qu'il y a d'autres CIVAM qui mènent d'autres études.
Enfin, tout à fait, oui.
Ouais, c'est ça. Parce que c'est important d'avoir ses propres... de mener ses propres études.
Oui, c'est ça, oui. C'est parce qu'on n'a pas forcément les chercheurs adéquats sur ce qu'on veut à un certain moment. Donc c'est sûr on peut être aussi un laboratoire de formation et puis d'accueillir des stagiaires. Ça fait aussi partie de notre travail aussi pour répandre aussi nos objectifs de changement de système.
Stagiaire très très chevronné quand même déjà. Paul Leyot, donc vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer le sujet sur lequel vous avez travaillé déjà pour commencer?
Oui, donc le sujet sur lequel j'ai travaillé s'inscrit sur le groupe de travail justement pâturage des milieux semi-naturels. Donc c'était de comprendre un petit peu l'évolution des pratiques en agriculture dans l'utilisation de ces milieux et également de pouvoir produire des données économiques sur les différentes exploitations et pour pouvoir avoir des repères sur ces exploitations qui utilisent ces milieux par le pâturage et pouvoir les comparer avec les autres exploitations d'un territoire qui ne les utilisent pas ou les utilisent moins.
Et quand on lit l'intitulé du sujet, c'est vous parlez de système économe. C'est quoi ça? Vous pouvez préciser ce que vous entendez par là?
Donc les systèmes économes, c'est des systèmes qu'on rencontre beaucoup dans les adhérents du CIVAM du Finistère. Donc c'est des systèmes de production qui vont chercher à leur fonctionnement économique dans la diminution des charges. Donc des charges qui vont être tout ce que l'exploitation va acheter. Donc par exemple de l'aliment pour les animaux, des engrais ou des amendements pour les cultures ou encore du matériel pour faire fonctionner l'exploitation. Donc, ils vont chercher à réduire au maximum toutes ces charges. C'est pour ça qu'on les appelle économes. Et donc, ils vont plus compter sur le fonctionnement naturel des écosystèmes, donc des milieux, et sur l'exploitation au maximum de la capacité des animaux aussi, dans les élevages, à trouver leur nourriture eux-mêmes. Et ils vont souvent se porter aussi sur des races qui sont adaptées au milieu et qui peuvent se passer le plus possible donc d'achat d'aliments, de produits vétérinaires, etc.
Oui, c'est ça. Bon, on va, de toute façon, on va y revenir plus en détail. Vous avez défini donc un territoire, pour, vous ne pouviez pas étudier tout le Finistère, malheureusement. Alors, c'est le pays Bigoudin, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et alors, pourquoi? Pourquoi celui-là?
Alors, en effet, on avait besoin d'un territoire limité pour avoir un niveau de précision satisfaisant. Donc, le choix s'est porté sur le pays Bigoudin pour sa grande diversité de milieux semi-naturels. Donc, il y a les fameuses dunes et marais de la baie d'Audierne, également des fonds de vallées humides, comme on peut en trouver un peu partout en Bretagne.
C'est... Ah oui, ça, on les connaît moins dans le pays Bigoudin, on les visualise moins. On a plutôt l'impression que c'est assez sec. Et en fait, c'est où, par exemple, un fond de vallée humide en pays Bigoudin?
Bien, en fait, répartis sur un petit peu tout le territoire, on va avoir les petits ruisseaux ou les fleuves côtiers qui s'encaissent dans le relief. Et ces fonds de vallée sont donc constamment humides du fait du cours d'eau qui les traverse et du sol qui peut être un petit peu tourbeux parfois et qui absorbe beaucoup d'humidité. Et donc, c'est des milieux, par exemple, qui sont très peu portants, c'est-à-dire que on ne va pas pouvoir facilement mettre des animaux et encore moins des tracteurs dessus, puisque sinon on s'embourbe tout simplement, on s'enfonce. Et donc c'est des milieux qui étaient très utilisés autrefois et qui ont perdu de l'intérêt dans l'agriculture actuelle, dans les nouveaux systèmes de production, et qui sont donc délaissés. Et aujourd'hui, la majorité de ces vallées sont enfrichées ou en forêt.
Ouais, donc l'étude, j'imagine, cherche aussi à savoir si ce serait pertinent de reprendre une activité agricole dans ces milieux-là, je suppose.
Oui, ça fait partie effectivement des questions. Alors, sachant que forcément, on ne pourra pas récupérer tout ce qui a été perdu, d'une part, puisque des fois, il y a des travaux de défrichement qui seraient trop importants lorsqu'il y a une forêt, et puis parce que certaines pratiques ne pourront pas être remises forcément au goût du jour. Par exemple, il y a certains milieux qui ne pouvaient être utilisés que parce qu'on fauchait de l'herbe à la faux à bras. Ça, ce n'est pas forcément souhaitable de revenir à ce genre de pratiques. Mais effectivement, de réfléchir comment utiliser au moins celles qui sont encore, les prairies qui sont encore entretenues aujourd'hui, et de leur redonner une vocation productive, ça fait partie des objectifs de l'étude.
Donc le pays Bigoudin, il y a des milieux dunaires, des milieux humides, enfin, des fonds de vallée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme milieu intéressant pour vous?
On a également quelques landes, donc, qui ne sont pas forcément très, très grandes en surface et qui sont moins connues que par exemple celles du Cap Sizun ou des monts d'Arrée, etc. Mais on a quelques milieux où le sol est très peu profond et donc on a des landes ou des friches qui se sont développées sur ces milieux, ou alors des prairies assez peu productives, assez sèches.
Et à part sa surface et sa diversité de milieux, quels étaient les intérêts éventuels du pays Bigoudin? Je ne sais pas, les intérêts pratiques?
Eh bien, en intérêt pratique, c'est vrai que c'était une région qui était assez facile déjà à définir au début, même si elle a été, le zonage a été redéfini en fonction de la localisation des paysages, etc. Et ensuite, c'était une région aussi qui était intéressante puisque l'activité agricole a beaucoup reculé sur cette région par rapport à ce qu'elle a pu être autrefois. Donc on a de l'enfrichement qui s'est fait sur certains espaces, alors que le pays Bigoudin était autrefois réputé pour la richesse de ses productions agricoles. Et donc, voilà,
ah oui, qu'est-ce qu'on cultivait par exemple en pays Bigoudin qu'on ne cultive presque plus ou plus?
Eh bien, par exemple, c'était les petits pois sur toute la baie d'Audierne, qui était très réputée. L'élevage intensif de porcs, donc on appelait ça de l'élevage intensif. C'était pratiqué par des petites exploitations, mais à l'époque, il y avait une densité en élevage porcin qui était assez importante. Et donc, ça a plutôt perduré. Et on avait aussi la culture de pommes de terre primeur, surtout le sud du pays Bigoudin, qui faisait la renommée de Pont-l'Abbé.
Mais il fallait quand même que, pour votre étude, il reste quand même suffisamment d'exploitants agricoles. Enfin, et membres du CIVAM ou pas, Sophie?
Oui, c'était ça que je voulais compléter, que nous, le choix aussi de ce territoire, c'était parce que ça permettait de... C'est là où on pouvait retrouver un nombre assez important de nos adhérents. donc qui pouvait constituer une partie de l'échantillon de travail de Paul.
Mmh, d'accord. Et suffisamment diversifié, pareil, en termes de production, c'était suffisamment diversifié pour être intéressant, quoi.
Alors, plutôt des éleveurs. C'était plutôt, on recherchait plutôt des éleveurs, vu que notre thématique de départ, c'était le pâturage des milieux semi-naturels.
D'ailleurs, je rappelle aux auditrices et auditeurs que le pâturage des milieux semi-naturels, ou l'éco-pâturage, si on veut, c'est ça. On avait fait une émission il y a quand même 2 ans, hein, ou 3 ans même.
Ouais, c'est ça.
Mais oh, elle est encore un peu valable, je pense.
Oui, oui, oui.
On peut la réécouter. Alors, les paramètres, Paul Leuillot, donc, les paramètres étudiés, qu'est-ce que vous regardiez en particulier dans cette étude ?
Donc, l'objectif de cette étude, donc c'est de faire un diagnostic agraire, c'est-à-dire de comprendre une région agricole afin d'être en mesure d'expliquer pourquoi les agriculteurs et les agricultrices de ce territoire font ce qu'ils font aujourd'hui et de pouvoir produire des données économiques sur leur production de richesses et d'emplois au sein de leur exploitation. Donc, pour cela, on cherche à comprendre les facteurs qui ont pu influencer l'évolution des différentes exploitations de ce territoire depuis les années 50, en fonction, par exemple, des milieux auxquels elles avaient accès, donc de où elles se situaient dans le paysage, également de leur surface et de l'application du contexte politique et économique à leur système de production. Donc, on va pouvoir essayer de retracer les trajectoires d'évolution des différentes exploitations des années 50 pour voir lesquelles ont cessé leur activité et pourquoi, et lesquels ont mené aux différentes exploitations qu'on rencontre aujourd'hui sur ce territoire. Ensuite, on cherche à comprendre le fonctionnement des exploitations actuelles et à mesurer leur efficacité économique. Et le but, après, c'est de pouvoir comparer les résultats de ces différentes exploitations. Donc, on fait des types d'exploitations, on construit un petit peu des modèles pour généraliser les résultats. Et de pouvoir notamment les comparer avec les exploitations des adhérents du CIVAM du Finistère qui utilisent pour une grande partie des milieux semi-naturels.
Alors, vous avez étudié combien d'exploitations alors, votre typologie, quelle était-elle ? Combien vous avez dégagé de grands types d'exploitations, peut-être ?
Alors, j'ai commencé par une lecture de paysage au début. Et ensuite, j'ai enquêté des agriculteurs et des agricultrices retraités. Donc ça, j'en ai rencontré une trentaine pour comprendre justement toute cette partie historique. Et dans les agriculteurs et agricultrices en activité, j'ai vu une quarantaine d'exploitants et d'exploitantes sur le territoire du pays Bigoudin, donc à la fois des adhérents du CIVAM, mais également tous les types d'exploitations qu'on peut rencontrer sur ce territoire, à l'exception du maraîchage, puisque c'est constitué un type d'exploitation en plus que je n'avais pas le temps d'étudier et qui avait relativement peu d'intérêt dans la compréhension.
Oui, ça ne rentrait pas dans le sujet de l'éco-pâturage, quoi, puisqu'il n'y a pas d'animaux par définition. Quoi.
C'est ça. Alors, j'ai aussi vu des exploitations qui n'utilisaient pas les milieux semi-naturels, tels que des exploitations d'élevage porcin. Mais c'est intéressant de voir que dans leur surface, il y a des milieux qu'ils ne peuvent pas mettre en culture. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il arrive dans l'utilisation de ces milieux ? Et également de comprendre l'évolution de ces exploitations, puisque si on remonte quelques années en arrière, la plupart de ces exploitations avaient encore des vaches, au moins, par exemple, jusqu'aux années 70, voire bien plus tard.
Ah ouais, c'est ça. Évidemment, c'est difficile, mais qu'est-ce qui ressort, les grandes lignes qui ressortent de l'étude, justement, sur les évolutions et les comparaisons entre le passé et le présent, déjà ? Pourquoi, comment ont évolué ces élevages, déjà ?
Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'au début des années 50, la diversité des milieux était utilisée pour le fonctionnement de l'exploitation, c'est-à-dire qu'ils étaient valorisés par l'élevage, par les animaux principalement. Donc, c'est-à-dire que les prairies humides de fond de vallée ou les marais côtiers étaient pâturés par les vaches et qu'il y avait une diversité de milieux qui étaient utilisés différemment en fonction de la saisonnalité de l'année. C'est-à-dire que les prairies humides ne pouvaient être pâturées que l'été lorsqu'elles étaient suffisamment sèches. Et à l'inverse, l'hiver, on utilisait justement les espaces de landes ou en tout cas de sols peu profonds où il y avait moins de boue et donc c'était plus propice au pâturage des animaux.
Donc ça, c'est pour les vaches ?
Voilà, tout à fait. Et une complémentarité aussi entre les élevages, c'est-à-dire, comme c'est connu, donc c'est une époque où le lait était transformé en beurre, donc le lait écrémé et le petit lait étaient donnés aux cochons avec les céréales de l'exploitation pour les engraisser. Et donc on avait aussi une complémentarité entre les élevages. Et ces élevages servaient aux productions végétales, puisque par exemple... dans les prairies humides, on avait aussi une production de foin qui était très importante pour les exploitations, puisque c'était un petit peu les seuls espaces qu'on pouvait réserver à la production de foin. Les autres espaces étaient cultivés. Et donc, ça permettait déjà de pouvoir passer l'hiver. Mais aussi, le foin était donné à l'étable. Et donc, à l'étable, les animaux transformaient le foin en fumier qui servait à fertiliser les cultures. Donc ça, les agriculteurs retraités l'ont encore bien en mémoire. À l'époque, c'est les prairies naturelles, c'était la valeur d'une ferme.
Donc on dit à l'époque, c'est jusqu'aux années 60, enfin 50-60, c'est ça ?
Oui, ouais. C'est ça.
Et donc là, ça s'est arrêté. Bon, après, il y a eu le remembrement. Enfin, on connaît un peu l'histoire. C'est là que ça s'est arrêté, comme voilà. Partout ailleurs. Enfin, le pays Bigoudin, finalement, il n'y a pas eu d'exception de ce que vous en savez, en tout cas.
Oui, tout à fait. Ça a connu l'évolution classique de l'agriculture dans qu'ont connu la plupart des régions de France, avec toutefois justement cette un petit peu particularité, mais qu'on peut retrouver ailleurs, qu'on avait une agriculture particulièrement intensive en travail, avec des cultures à forte valeur ajoutée, comme justement les petits pois, les pommes de terre primeurs, avec une forte densité d'exploitation, et qu'on a connu un recul très important de l'agriculture sur ces zones, suite à cette évolution de l'agriculture.
Et alors, on a parlé des vaches. Et alors, les cochons, vous disiez qu'il y en avait beaucoup jusqu'à, pareil, aux années 50-60. Mais alors, il y a peu de milieux forestiers. En revanche, en pays Bigoudin, je ne sais pas s'il y en a eu. C'était des cochons qu'on emmenait où quand on les faisait éco-pâturer ?
Alors, il y avait assez peu de pâturage des cochons dans le pays Bigoudin. Ce n'était pas trop des pratiques.
Ah ouais, on ne les emmenait pas à la glandée, d'accord. Donc, on les nourrissait directement sur la ferme, quoi. Enfin...
Oui, c'est ça. Ils étaient plutôt en bâtiment et donc nourris avec une soupe à base de pommes de terre, de farine de céréales et de petit lait.
Et pas du tout, enfin peu d'ovins, enfin de caprins, moutons, chèvres en pays Bigoudin.
Non, ça remonte à bien plus loin quand justement il y avait encore des surfaces importantes de landes ou quand les marais côtiers pouvaient être pâturés par des troupeaux ovins. Mais ça remonte plutôt au 19e siècle. Donc sinon, c'était principalement des vaches et des cochons sur le pays Bigoudin.
Et alors, dans les éleveurs actifs, enfin ceux qui sont en activité, quelles sont les pratiques ? Est-ce qu'il y a eu des pratiques anciennes qui sont revenues ? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qui ont émergé ? Qu'est-ce que vous avez observé ?
Alors, c'est vrai que c'est intéressant, puisqu'on voit principalement dans les élevages laitiers qu'avec les crises laitières de 2008 et de 2015, et aujourd'hui, un cours du lait qui est plutôt défavorable. On a un prix qui est assez bas et des coûts de production qui sont élevés.
Donc là, on parle de lait conventionnel.
C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, les éleveurs cherchent à trouver des pratiques plus économes, justement. Et ça touche à peu près tous les types d'exploitation laitière aujourd'hui. Mais avec une différence dans la possibilité de mettre en œuvre ces systèmes plus économes. Et où on voit qu'il y a un retour à des prairies d'associations avec des légumineuses, par exemple, pour consommer moins de soja, ou un retour, par exemple, à la culture de la betterave fourragère, qui avait été un peu abandonnée. Le problème, c'est qu'on a des exploitations qui sont de plus en plus grandes, avec donc plusieurs actifs, pour ce qui fait qu'on a à peu près autant d'actifs par vache, ou plutôt autant de vaches par actif. Mais on a des économies d'échelle, si on veut, puisque on ne peut pas emmener les vaches pâturées
trop loin
de l'exploitation. Mmh. Et donc, dans ces exploitations qui cherchent à avoir des pratiques plus économes, eh bien, on a un recours au pâturage qui va rester limité et aussi un recours au milieu semi-naturel qui est difficile, puisqu'on a des niveaux de production quand même recherchés qui sont assez élevés. Et donc, c'est difficile d'atteindre ces niveaux de production avec des milieux semi-naturels.
Et alors, la majorité des exploitations que vous avez étudiées étaient plutôt du conventionnel ou est-ce qu'il y avait quand même du bio? Et justement, est-ce que vous avez constaté des différences peut-être?
Alors, j'ai rencontré effectivement des systèmes bio aussi en élevage laitier et en grande culture, mais ça, c'était assez spécifique, un peu particulier. Mais en élevage laitier, j'ai rencontré un petit peu deux schémas, enfin, même trois si on prend un cas aussi un peu à part. Mais sinon, les deux schémas principaux, on va avoir des exploitations qui vont chercher à... Donc, qui vont passer en agriculture biologique et qui vont... investir dans un robot de traite et avec un donc forcément une plus grande autonomie alimentaire du troupeau, mais qui va passer par beaucoup de stocks en fait. C'est-à-dire que même si on réduit la part de maïs, ça va être beaucoup donc de ce qu'on appelle de l'enrubanage. Donc c'est un petit peu comme de l'ensilage en bottes d'herbe et de luzerne. Et finalement, on diminue quand même les charges puisque c'est des prairies. On a quand même quelque chose qui est peut-être plus favorable à l'environnement, à la biodiversité, etc. Mais ça repose toujours sur beaucoup de prélèvements de stock qu'on donne aux animaux et peu de pâturage et peu d'utilisation des milieux semi-naturels. Pour d'autres, on va avoir une grande diminution du cheptel, c'est-à-dire qu'il y a des élevages qui sont passés de 70 à 25 vaches.
En passant en bio, oui.
C'est ça.
D'accord.
Et qui, pour le coup, essaient de reposer quasiment uniquement sur le pâturage et sur des prairies de longue durée. Mais malheureusement, c'est plutôt des élevages qui font ça vers la fin de leur activité et qui cherchent ou pas des repreneurs, mais en tout cas des systèmes qui vont peut-être disparaître dans les années à venir.
Ah oui. Et puis, il y a peut-être, enfin, les élevages bio sont peut-être plus petits. Est-ce qu'ils disposent de tous les terrains qu'il faudrait pour faire de l'éco-pâturage? C'est peut-être ça la question aussi, non? Est-ce qu'ils... encore faut-il pouvoir le faire, l'éco-pâturage, enfin le pâturage des milieux semi-naturels.
Oui, effectivement, mais il reste quand même sur des gammes de surface qui sont bien supérieures à celles, par exemple, des adhérents du CIVAM qui utilisent des milieux semi-naturels. Donc là-dessus, je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Je pense que c'est aussi... parce qu'il y a des élevages bio qui ont... une gamme de surface qui reste peut-être dans la moyenne inférieure des élevages laitiers, mais c'est toujours entre 50 et 100 hectares quand même. Et donc, je pense que c'est plus un problème du système d'alimentation des animaux où pour chercher une certaine productivité. On ne va pas pouvoir utiliser ces milieux. Et puis, puisqu'on a une taille de troupeau qui reste trop importante pour pouvoir adapter leur conduite assez finement à ces différents milieux.
D'accord. Ouais, pour que ça soit rentable, il ne faut pas trop de vaches. Ouais. Ouais, c'est pour que l'éco-pâturage soit intéressant financièrement. Quoi. Et donc, est-ce que dans les nouvelles activités, est-ce qu'il y a des nouveaux élevages? Enfin, justement, est-ce qu'on élève à nouveau des cochons, mais différemment, en les faisant éco-pâturer? Enfin, je ne sais pas, ou des moutons ou des chèvres, ce qu'on ne voyait pas avant. Vous avez observé ça ou...
Alors effectivement, on a deux troupeaux ovins qui se sont lancés dans le pays Bigoudin, donc assez différents. Donc on a un justement mené par un adhérent du CIVAM qui fonctionne beaucoup sur le pâturage et notamment sur le pâturage de zones littorales. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une complémentarité avec par exemple des agriculteurs bio qui sont céréaliers et qui ont besoin de couverts végétaux entre deux cultures, ou même parfois d'installer des prairies pour des raisons agronomiques. Et donc, il va pouvoir réaliser ce qu'on a pour le coup de l'éco-pâturage, mais sur des milieux très productifs, qui sont des prairies temporaires ou des couverts, et qui vont pouvoir compléter un petit peu l'utilisation de milieux très peu productifs, comme les dunes littorales. Et on a un autre élevage... ovins qui, pour le coup, utilisent plus aussi toujours d'achat ou en tout cas de céréales pour engraisser les agneaux en bâtiment. Et donc, les milieux peu productifs vont être utilisés, vont être utiles à l'exploitation, mais plus pour servir un petit peu de parking, si on...
D'accord,
aux animaux qui ont des faibles besoins.
Ah oui. Donc, finalement, l'utilisation des milieux semi-naturels, en tout cas en pays bigoudin pour l'élevage, bon, ça reste encore assez marginal. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui pourrait favoriser son développement, enfin, le rendre intéressant économiquement pour les éleveurs ?
Eh bien, je pense que l'enjeu, c'est de reconnecter un petit peu, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation de milieux difficiles à valoriser, donc ces milieux semi-naturels, avec des espaces à plus haut potentiel. Je pense que c'est la condition pour qu'on puisse installer plus d'agriculteurs qui soient plus productifs de valeur ajoutée et d'emplois sur le territoire et qui puissent aussi participer à l'alimentation de ce territoire. C'est qu'il ne faut pas installer des agriculteurs que sur des mauvais milieux. Il faut qu'ils aient un peu de tout au sein de leur exploitation.
Ouais, donc soit réorganiser l'espace, soit connecter les élevages entre eux aussi, éventuellement. Merci Paul Le Houx, merci à Sophie Pathé. On réécoutera bien sûr cette émission sur le site de Radio Évasion avec toutes les autres émissions qu'on a réalisées avec le CIVAM du Finistère qui revient dans l'EM le mois prochain, c'est le 14 octobre. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.